Père Philippe Play, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes religieux passionniste depuis 1992, ordonné prêtre en 1998. Et votre particularité, c'est que vous vivez en ermite dans l'Aude, à Notre-Dame-du-Croc, depuis 2001. Vous partagez votre temps avec cet ermitage et le charisme des passionnistes qui est aussi la prédication. Donc, prédication qui vous fait sortir de votre ermitage. Par ailleurs, donc, ça vous laisse le temps d'écrire la vie et les œuvres de votre fondateur, Saint Paul de la Croix. Donc, vous êtes ici sur le plateau de RCF Accord à Angoulême pour nous parler de cette trilogie que vous venez de sortir. Il y a eu d'abord Saint Paul de la Croix, le journal des 40 jours, puis le fondateur et l'apôtre, puis le dernier, la correspondance avec Sœur Colomba Gandolfi. Alors, cette trilogie, en fait, ça n'est qu'un seul gros pavé, mais que vous, pour les besoins de l'édition, on a découpé en trois morceaux.
C'est exact. L'ouvrage a été pensé globalement, mais il n'était pas concevable de le publier intégralement en un seul volume, et c'est pourquoi il a été réparti en trois.
Alors, le personnage central, donc, c'est ce fameux Saint Paul de la Croix. Saint Paul de la Croix, alors, c'est un prêtre.
Un prêtre, mais c'est avant tout quelqu'un qui est appelé à une grande contemplation, une contemplation extrêmement intense, et c'est tout le thème du premier ouvrage consacré au journal.
Alors, quelques dates d'abord, il est né en 1774.
Il est né en 1694.
Il est né en 1694 et mort en
1715.
Oh merde, pardon, je reprends tout. Quelques dates donc sur Saint-Paul de la Croix, né en 1694, donc à la fin du XVIIe, et mort en 1775, la fin du XVIIIe. Mais on peut dire que c'est un personnage du XVIIIe.
Ah bah, tout à fait. Toute son activité s'est accomplie au XVIIIe siècle. Il est mort vraiment à l'aube de la Révolution française.
Cela dit, en Italie, c'était pas, puisque c'est un Italien, c'était pas tout à fait les mêmes idées, il n'était pas porté vers les idées de la Révolution.
Ah, pas du tout. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Au contraire, on pourrait dire que c'est plutôt un homme du passé, un homme de la réflexion, de la...
Non, c'est un homme qui est en dehors du monde et qui n'en suit pas les mouvements. Il ne s'oppose pas aux valeurs de la Révolution française parce que son idéal politique n'y correspondrait pas. Ça ne correspond pas du tout aux références de Paul de la Croix. Paul de la Croix... s'oppose à toute culture qui veut évacuer la transcendance. Et il veut, dans le cadre de l'Église, renforcer cette transcendance, parce qu'il l'a vécue par expérience, en affirmant le haut lieu mystique où vraiment on peut faire une expérience du cœur de Dieu, et c'est le Golgotha, c'est la passion de Jésus-Christ.
Alors c'est ça il est dans cette grande ligne des mystiques, en fait.
Il est en plein dedans, c'est son milieu. C'était un laïc, quand on se replonge dans sa jeunesse, un laïc, et qui était fervent, donc il était d'une famille très fervente, catholique, mais en même temps, le Seigneur lui communiquait ses grâces, et il a su les accueillir. Par exemple, sa mère avait insisté sur deux choses auprès de ses enfants.
Elle a eu 16 enfants, dont 6 seulement ont survécu.
Voilà, seulement 6 sur une quinzaine. Mais quand ils étaient petits, à l'époque par exemple, lorsqu'il fallait les coiffer, c'était une affaire d'État, ça tirait sur les cheveux étaient longs et entremêlés, eh bien elle leur parlait ou bien des moines du désert, ou bien de la passion de Jésus-Christ. Et à chaque fois, Paul de la Croix en particulier était captivé par ces discours et qui ont fait leur chemin. Parce que c'était pas seulement la maman qui parlait, bien sûr, les autres frères et sœurs aussi ont entendu ces discours. Mais lui, il entendait plus que ça, il entendait vraiment la voix du Seigneur à travers ses récits. Et depuis son enfance, il n'a pas quitté cette intimité avec Dieu qui est née comme ça, tout simplement, dès son enfance.
Mais sa véritable conversion date de cette époque où il est allé 40 jours dans le désert, on pourrait dire.
Voilà, un petit peu avant, c'est à l'âge de 19 ans qu'il fait sa conversion, et ensuite sur une période qui va de 19 à 25 ans, au moment où il devient ermite, et où il fait sa retraite de 40 jours, eh bien là, il va y avoir voir de très grandes grâces mystiques qui vont parsemer son itinéraire et qui vont le conduire peu à peu eh bien, à se décider, à se résoudre pour devenir ermite. Et par exemple, eh bien, il devra, même s'il est dans sa famille vraiment le pilier, il aide son père et puis il est très, très doué pour le... Son père est un petit marchand de tabac, il est très doué pour le commerce, dans une... alors que la famille est assez pauvre, eh bien, il comprend qu'il doit laisser les siens dans une certaine pauvreté, tant pis, Dieu d'abord.
Lui d'abord avec son frère Jean-Baptiste.
Et son frère Jean-Baptiste le rejoint, est toujours avec lui, depuis l'enfance d'ailleurs.
Il lui sert de jumeau, mais enfin de second en fait, on peut dire.
De second,
il est dans son ombre.
Ouais.
Alors c'est 40 jours, parce que donc, on va analyser nos trois volumes pour donner envie de lire cette vie. L'écriture vous est facile parce que ça coule. Hein.
oui, c'est le sujet sans doute qui m'inspire.
Donc, 40 jours où il fait l'expérience mystique de Dieu, mais avec les difficultés qu'on connaît. On n'est pas en extase comme ça tout de suite.
Pendant 40 jours, bon, bah, on imagine bien, ça y est, il est devenu ermite, là, et dès le sortir de la cérémonie, il s'en va dans un petit local d'une église, et il va vivre pendant 40 jours une retraite spirituelle pour inaugurer sa vie consacrée. Et c'est un journal que lui a demandé son directeur spirituel, qui est l'évêque aussi, qui l'a consacré lui-même. Et on a donc au jour le jour eh bien, ses expériences par rapport à l'oraison, puisque là, le thème de la retraite, c'est pas de prêcher, c'est de prier. Et on se rend compte que c'est du climat intérieur de Paul au moment de sa consécration, donc après cette conversion qu'on a évoquée là, et la vêture d'ermite en est le couronnement, eh bien on s'aperçoit, vous voyez, qu'elle est très intense, sa retraite. Quand on observe les jours, les 40 jours, on peut les partager en deux. Il y a des jours de lumière très fortes, de grâce immense, contemplative, et vous avez les jours de ténèbres également très forts. C'est-à-dire que c'est pas des jours neutres. Il y a seulement environ 5 jours qu'on pourrait qualifier de...
Calme.
C'est-à-dire 40 jours d'une expérience intense, vraiment, du combat spirituel, des deux versants qui constituent la vie de foi, la lumière et les ténèbres.
C'est en cela qu'il est exemplaire et que vous voulez... C'est pour cela que vous avez travaillé, médité là-dessus pour nous le proposer.
Exactement, c'est un grand témoin. Et il deviendra, au cours de sa vie, un apôtre de la vie intérieure. Et il le fera par un chemin qui est très précis, c'est la passion de Jésus-Christ. Mais c'est pour la vie intérieure, c'est vraiment introduire ses contemporains dans cette dimension-là. Paul de la Croix, contrairement à la grande majorité de ses contemporains, étaient persuadés que la contemplation n'était pas du tout le fait d'une élite, que Dieu désirait entrer dans une relation d'amitié avec tous les hommes, toutes ces âmes qu'il a créées lui-même.
Alors, Père Philippe Play, Saint Paul de la Croix, c'est aussi le fondateur d'un ordre. Et ça, c'est le deuxième tome de votre écriture. Le fondateur de l'ordre dans lequel vous êtes, les passionnistes. Mais il a mis 20 ans quand même à élaborer, à créer son ordre, parce qu'il ne s'était pas très bien reçu à l'époque ou parce que ce n'était pas très clair dans son esprit.
C'était nouveau. Donc au moment des 40 jours, quand il devient ermite, son choix va vers la vie consacrée qui est la plus large, la plus souple, la moins définie. Vous voyez, les capucins, les carmes, tout le monde était prêt à le recevoir, car déjà sa réputation de sainteté dans sa ville était notoire. Mais il se sentait appelé par le Seigneur à fonder quelque chose d'autre. Et pendant les 40 jours, justement, il en a reçu l'inspiration. Il a écrit une règle en quelques heures, en un instant, dirais-je. La règle qui n'a été que très peu remaniée ensuite, concernant des détails techniques uniquement. Et pendant 20 ans, il va la vivre avec son frère, qui devient ermite aussi. Et tous deux, pendant 20 ans, vont vivre les valeurs de cette règle et son rythme, et ainsi la mettre au point, et en même temps, la faire accepter par l'Église.
Et aussi toucher d'autres jeunes gens qui pourraient les suivre et qui sont venus.
Bien sûr, c'était leur volonté. Mais pendant 20 ans, il faut dire que Paul et son frère étaient tellement ascétiques, ils ont reproduit devant leurs contemporains ce qui se vivait, vous voyez, au 4e siècle de notre ère, dans les déserts d'Égypte, au niveau de l'ascèse qu'ils menaient, au niveau des temps de prière. Et il y a eu plusieurs jeunes qui ont essayé de les suivre, mais qui n'y sont pas parvenus. Et en revanche, ils étaient aussi prédicateurs, et donc ils se sont lancés, après leur ordination, dans les missions paroissiales, à la demande des évêques. Et c'est là qu'ils ont commencé à avoir des demandes aussi, toujours plus nombreuses. Mais et c'est là que l'Église s'est aperçue de la profondeur et de la force du message. Paul était capable de parler vraiment au cœur des gens et d'obtenir de réelles conversions. Il était capable de les introduire dans la vie spirituelle. Et alors, eh bien, l'Église est intervenue à analyser, à discerner la règle qu'il avait reçue à Castellazzo 20 ans plus tôt, en adoucissant certaines choses pour pouvoir justement qu'il puisse être suivi par des vocations.
Et c'est ce qui est arrivé. L'autre versant de Paul de la Croix, c'est aussi donc la direction spirituelle. Et en cela, il a écrit... Alors, vous en avez écrit un volume, c'est la correspondance avec Sœur Colomba Gandolfi. Au passage de la correspondance, d'habitude, quand on a un livre de correspondance, on a les correspondants, disons. Là, il n'y en a qu'un... Que les lettres du directeur et pas les lettres de la dirigée. La dirigée a brûlé ses lettres.
Ou bien le directeur lui-même. Il avait une mauvaise habitude, Paul Delacroix. Lorsqu'il avait fini de répondre à quelqu'un, il brûlait la lettre parce que c'est pour garder le secret absolu sur ce qui avait été dit.
Alors, c'était son activité, une activité qui était annexe au départ et qui est devenue prépondérante, en fait. Plus de 40 000 lettres.
Oui, on évalue à plus de 40 000 lettres la correspondance de Paul de la Croix durant sa vie. C'est parce que la direction spirituelle était le prolongement de ses missions paroissiales, où là, bon, et pendant un temps intense mais limité tout de même, ça dépendait de la population, entre 15 jours et un mois, une mission paroissiale. Là, il confessait tous les soirs, tard dans la nuit, il réconciliait les gens et puis il prêchait pour les convaincre, pour nourrir leur foi. Il animait, il n'était pas seul aussi, il y avait aussi ses religieux, donc il animait les prières, etc. Mais lorsque vraiment quelqu'un se sentait appelé à aller plus loin, eh bien, il lui proposait de commencer un itinéraire de direction spirituelle plus suivi dans le temps.
Alors cette direction spirituelle avec Sœur Colomba Gandolfi, dont on connaît très peu de choses, sinon qu'elle était Clarisse et...
Voilà, une jeune Clarisse qui on sait où se trouvait son monastère, mais on ne sait rien du tout parce que malheureusement, au moment de la guerre, le monastère a été bombardé et réduit totalement en cendres et donc les archives ont été détruites.
Alors il nous reste donc Saint Paul de la Croix en trois volumes par le père Philippe Play à lire, à déguster, à savourer, à modéliser, à apprécier. Merci père Philippe Play.